Livre 14, chapitre 2, contenant des lettres et autres objets relatifs aux intrigues d'amour. Jones venait à peine de rentrer chez lui lorsqu'il reçut la lettre suivante. « Je n'ai jamais été plus surprise que lorsque je me suis aperçu que vous étiez tout à fait parti. Quand vous avez quitté le salon, j'imaginais peu que vous eussiez le projet de quitter la maison sans me revoir. Votre conduite ne se dément pas. Il me prouve combien je dois mépriser un cœur qui peut se passionner pour une idiote. Quoique je ne sache pas bien ce que je dois le plus admirer, de sa fourberie ou de sa simplicité. Elles sont réellement étonnantes toutes deux. Car, quoiqu'elle ne sût pas un mot de ce qui s'est passé entre nous, elle a eu l'habileté, l'audace, la... comment l'appellerais-je, de me nier en face qu'elle vous connût ou qu'elle vous eût jamais vu. Était-ce un projet concerté entre vous, et avez-vous été assez vil pour me trahir? Oh, combien je la méprise, elle! Vous, tout le monde, mais surtout moi, car je n'ose pas écrire ce que par la suite j'aurai honte de lire. Mais souvenez-vous que je puis haïr aussi violemment que j'ai aimé. » Jones n'avait eu que peu de temps pour réfléchir sur cette lettre, lorsqu'on lui en remit une seconde de la même main. Nous allons la transcrire comme la précédente, et avec la même exactitude. Si vous voulez considérer un moment le désordre où devraient être toutes mes idées lorsque je vous ai écrit, vous ne pourrez être étonné des expressions de mon premier billet. Cependant, par réflexion, je conviens qu'elles étaient trop vives. Je voudrais au moins croire, s'il était possible, que tout ceci est dû à l'odieuse aventure du spectacle et à l'impertinence d'un sot qui m'a retenu par-delà l'heure que je vous avais fixée. Qu'il est aisé de penser avantageusement de ceux que l'on aime. Peut-être désirez-vous que je pense ainsi à votre égard. J'ai résolu de vous voir ce soir, ainsi venez chez moi sur le champ. P.S. J'ai dit à mes gens que je ne serai chez moi que pour vous. P.S. Monsieur Jones peut bien imaginer que je l'aiderai dans sa défense, car je crois qu'il ne peut pas plus désirer de m'en imposer que je ne désire de m'en imposer à moi-même. P.S. Venez à l'instant. J'en fais juge ceux qui s'occupent d'intrigues, qu'ils décident laquelle de ces deux lettres embarrassa le plus Jones, de celle qui respirait la colère ou de celle qui respirait l'amour. Il est certain qu'il n'avait pas un désir bien ardent de faire des visites ce soir-là, si ce n'est à une certaine personne. Cependant, il croyait son honneur engagé, et quand ce motif n'eût pas été suffisant, il n'aurait pas osé risquer de porter Lady Bellaston à un excès de violence dont il avait trop de raisons de la croire capable, et dont il craignait que le résultat ne fût de découvrir à Sophie le terrible secret de leur intimité. En conséquence, après avoir fait plusieurs tours de promenade dans sa chambre, l'esprit troublé et mécontent, il se préparait à sortir, lorsque Lady Bellaston le prévint obligeamment, non par une autre lettre, mais par sa présence. Elle entra, sa toilette fort en désordre, les yeux égarés, se jeta dans un fauteuil, et après avoir repris haleine, lui dit que lorsqu'une fois les femmes se sont laissées aller un peu trop avant, elles ne connaissent plus le borne. Si quelqu'un m'eût dit « Il n'y a pas encore 8 jours que je ferai une pareille démarche », je n'aurais pas cru que j'en fusse capable. « J'espère, madame, dit Jones, que ma charmante Lady Bellaston croira tout aussi difficilement quelque chose de défavorable à un homme aussi reconnaissant de toutes les bontés qu'elle a eues pour lui. » En vérité, reprit-elle, reconnaissant de mes bontés. Devais-je m'attendre à un langage aussi froid de la part de M. Jones? Pardonnez-moi, mon cher ange, reprit-il à son tour, si, après les lettres que j'ai reçues de vous, la crainte de votre colère, quoique j'ignore comment je l'ai méritée. Eh, quoi donc, dit-elle en souriant, ai-je l'air irrité? Ai-je réellement apporté avec moi un visage grondeur? « Je vous proteste en honneur, dit-il, que je n'ai rien fait qui mérite votre colère. Vous vous souvenez du rendez-vous que vous m'aviez donné. Je m'y suis rendu et... « Je vous en supplie, s'écria-t-elle, épargnez-moi cet odieux récit. Répondez-moi à une seule question et je serai tranquille. N'avez-vous pas compromis mon honneur en lui révélant ?» Jones se précipita à ses genoux et commençait à lui faire les protestations les plus vives quand Partridge entra en dansant et sautant comme un homme ivre de joie, et s'écria « Elle est trouvée! Elle est trouvée! Elle est ici, monsieur. Ici, oui, elle est ici. Mrs. Honora est sur l'escalier.
Arrête-la un moment, s'écria Jones.
Madame, mettez-vous derrière le lit. Je n'ai pas d'autre chambre, d'autre cabinet, ni d'autre lieu sur la terre où je puisse vous cacher. Il n'est jamais arrivé d'événement plus diabolique.
Diabolique est le mot, dit la dame, en se cachant derrière le lit, et tout aussitôt, Mrs. Honora entra dans la chambre.
Eh bien, dit-elle, monsieur Jones, qu'y a-t-il donc? Cet impudent coquin, votre domestique, voulait à peine me laisser monter l'escalier. J'espère qu'il n'a pas la même raison pour m'empêcher de vous voir que celle qu'il avait à Hampton. Je suppose que vous ne vous attendiez guère à ma visite. Mais il faut que vous ayez ensorcelé ma maîtresse. La pauvre jeune dame. Je l'aime, je vous assure, tout aussi tendrement que si c'était ma propre sœur. Recommandez-vous à la miséricorde du ciel, si vous ne la rendez pas heureuse quand vous serez son mari. Car certainement, il n'y aurait point en ce cas de punition assez grande pour vous. Jones se borna à la prier de parler plus bas, parce qu'il y avait une dame dangereusement malade dans la chambre voisine.
« Une dame ! » s'écria-t-elle.
« Ah, je suppose que c'est une de vos dames. Oh, monsieur Jones, il y en a trop de cette sorte dans le monde. Et je crois que nous logeons dans la maison d'une de ces dames, car Lady Bellaston, j'ose dire, n'est pas meilleure qu'elle ne devrait.
« Paix, paix !» dit Jones. « Vous ne dites pas un mot qui ne soit entendu dans l'autre chambre. »
« Je ne m'en soucie guère, s'écria Mrs. Honora. Je ne dis du mal de personne. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que les domestiques ne se font pas scrupule de dire à qui veut l'entendre que Milady donne rendez-vous à des hommes hors de chez elle, et dans une maison qui est louée sous le nom d'une pauvre dame. Mais c'est Milady qui paye le loyer, et qui lui procure d'ailleurs, à ce qu'on dit, beaucoup d'autres secours. » Ici, Jones, après avoir témoigné la plus vive agitation, voulut lui fermer la bouche.
« Ouais, pourquoi donc, monsieur Jones, veut-il m'empêcher de parler ?»«
Je ne dis du mal de personne. Je dis seulement ce que j'ai entendu dire aux autres. Et je pense en moi-même que les richesses de cette dame ne lui porteront pas bonheur si elle les acquiert par des moyens aussi honteux. Sûrement, il vaut mieux être pauvre et honnête. « Les domestiques sont des misérables, s'écria Jones, et ils calomnient leur maîtresse. » « Oh oui, sans doute, les domestiques sont toujours des misérables. C'est ce que dit ma maîtresse, qui ne veut jamais écouter un mot de ce qu'ils disent. »«
Oh, j'en suis convaincu, dit Jones. Ma Sophie dédaigne de prêter l'oreille à d'aussi viles calomnies. »«
Je ne crois pas qu'il y ait là de calomnie, dit Honora, car pourquoi irait-elle trouver des hommes dans une autre maison ? Ce ne peut être en aucun cas pour bien faire, car si elle se bornait à vouloir qu'on lui fît la cour honnêtement, et il est assurément bien permis à toute femme honnête de rechercher la société des hommes dans cette intention, quel pourrait être le motif ? Je déclare, s'écria Jones, que je ne peux pas entendre dire tout cela d'une dame que tout le monde honore et qui, de plus, est la parente de Sophie. D'ailleurs, vous incommoderiez cette pauvre malade dans la chambre voisine. Descendons, je vous prie.
Non, monsieur, si vous ne voulez pas me laisser parler, tout est fini.
« Tenez, monsieur, voici une lettre de ma jeune maîtresse.
Que ne donneraient pas quelques hommes pour un pareil présent ?»«
Mais, monsieur Jones, je me rappelle que vous n'êtes pas fort généreux. Et pourtant, j'ai entendu dire à quelques domestiques, mais je suis sûr que vous me rendrez la justice d'avouer que je n'ai jamais vu la couleur de votre argent. » Jones s'empara promptement de la lettre et lui glissa 5 guinées dans la main, en lui disant tout bas de faire 1000 remerciements à sa chère Sophie. Il la pria ensuite de le laisser lire sa lettre, ce à quoi elle consentit volontiers en sortant, non sans lui avoir témoigné la plus vive reconnaissance de sa générosité. Lady Bellaston sortit alors du lieu où elle était cachée. Comment peindre sa rage ? Sa langue ne put d'abord articuler une seule parole, mais ses yeux lançaient des étincelles ardentes qui annonçaient le feu dont son cœur était embrasé. Aussitôt que sa voix put trouver un passage, au lieu de témoigner aucune indignation contre Nora ou contre ses propres domestiques, elle dirigea sa colère sur le pauvre Jones. « Vous voyez, dit-elle, ce que je vous ai sacrifié, ma réputation, mon honneur perdu pour jamais. Et quelle récompense ai-je reçue ? Négligée, méprisée pour une petite campagnarde, pour une idiote. » « De quelle négligence ? De quel mépris, madame ? S'écria Jones. « Me suis-je donc rendu coupable ?»« Monsieur Jones, reprit-elle, il est inutile de dissimuler.
si vous voulez me tranquilliser, il faut l'abandonner absolument. Et pour me prouver que telle est votre intention, me montrez la lettre.
Quelle lettre, madame ? Dit Jones.
Assurément, répliqua-t-elle, vous n'aurez pas la hardiesse de me nier que vous ayez reçu une lettre des mains de cette coquine qui sort d'ici.
Eh, madame, s'écria-t-il, pouvez-vous exiger de moi ce que je ne pourrais faire sans me déshonorer ? En ai-je agi de cette manière avec vous ?
Si je pouvais avoir la bassesse de vous livrer le secret de cette jeune et innocente personne, quelle assurance pourriez-vous avoir que je ne vous trahirais pas à mon tour ?
Un moment de réflexion vous convaincra, sans doute, qu'un homme qui ne sait pas garder le secret d'une femme doit être le plus méprisable de tous les hommes.
« Fort bien, dit-elle, je n'ai pas besoin d'exiger que vous vous rendiez à vos propres yeux le plus méprisable de tous les hommes, puisque le contenu de cette lettre ne pourrait rien m'apprendre de plus que ce que je sais déjà. Je vois maintenant sur quel pied vous êtes ensemble. » Il s'ensuivit une longue conversation que le lecteur, qui n'est pas trop curieux, me remerciera de n'avoir point insérée ici tout entière. Il nous suffira donc de l'informer que Lady Bellaston s'apaisa peu à peu et finit par croire ou par affecter de croire les protestations que lui fit Jones que sa rencontre avec Sophie était purement due au hasard ainsi que les événements que le lecteur connaît. Ce qui ayant été démontré par Jones jusqu'à l'évidence, il est clair que Lady Bellaston n'avait dans le fait aucune raison d'être fâchée contre lui. Elle n'était pas cependant fort satisfaite dans le fond de son cœur du refus qu'il avait fait de lui montrer la lettre. Tant nous sommes sourds aux meilleurs raisonnements quand ils combattent nos passions dominantes. Elle était assurément bien convaincue que Sophie occupait la première place dans le cœur de Jones. Et cependant, toute hautaine, toute passionnée qu'elle était, elle finit par se soumettre à n'y tenir que la seconde. Ou, pour parler plus exactement, en me servant d'une expression judiciaire, elle se contenta de l'usufruit d'un bien dont une autre femme avait la propriété. Il fut enfin convenu que Jones, à l'avenir, serait admis dans la maison de Milady, que ses visites seraient mises sur le compte de Sophie par tous ses domestiques, par Mrs. Honora et par Sophie elle-même. Enfin, qu'elle, Milady, aurait l'air d'être celle à qui l'on en imposerait. Cette invention fut extrêmement goûtée par Jones, qui entrevoyait avec joie l'occasion de voir Sophie à quelque prix que ce fût. Et Milady elle-même n'était pas peu satisfaite de cette ruse, dont Sophie serait la dupe, et qu'elle espérait bien que Jones, pour son propre intérêt, n'oserait lui découvrir. La première visite fut fixée au lendemain, et après les politesses ordinaires, Lady Bellaston s'en retourna chez elle. Chapitre 3. Contenant divers sujets. Jones ne fut pas plus tôt seul qu'il brisa le cachet de la lettre et lut ce qui suit. « Monsieur, il m'est impossible de vous exprimer tout ce que j'ai souffert depuis que vous avez quitté cette maison. Et comme j'ai lieu de croire que vous avez l'intention d'y revenir, Honora m'ayant dit qu'elle connaissait votre demeure, je me hâte, quoi qu'il soit bien tard, de vous l'envoyer pour vous détourner de ce projet. Je vous enjoins, au nom de la considération que vous m'avez toujours montrée, de ne pas penser à revenir ici. Le but de votre démarche serait certainement découvert. J'ai même tout lieu de croire, d'après quelques mots échappés à Milady, qu'elle n'est pas déjà sans soupçon à cet égard. Il se présentera peut-être quelques circonstances favorables pour nous. Il faut l'attendre avec patience. Mais je vous en conjure encore une fois, si vous prenez quelque intérêt à ma tranquillité, ne pensez point à revenir dans cette maison. » Cette lettre fournit au pauvre Jones la même espèce de consolation que celle qui fut autrefois apportée à Job par ses amis. Outre qu'il voyait ainsi s'évanouir toutes les espérances qu'il avait conçues de revoir Sophie, il se trouvait à l'égard de Lady Bellaston dans un étrange embarras. Car il avait certains engagements, et il le savait très bien, pour la rupture desquels une excuse est bien difficilement admise. Et aller chez elle après la défense expresse de Sophie était une démarche à laquelle aucune puissance humaine n'aurait pu le forcer. Enfin, après une mûre délibération qui pendant toute la nuit suppléa à son sommeil, il se détermina à feindre une maladie, moyen qui se présenta à lui comme le seul qui pût l'excuser de manquer à la visite convenue, sans irriter Lady Bellaston, qu'il avait d'ailleurs plus d'une raison de vouloir éviter. La première chose dont il s'occupa en conséquence dans la matinée fut de faire à Sophie une réponse qu'il enferma dans un billet à l'adresse de Mrs. Honora. Il en écrivit ensuite une autre à Lady Bellaston, contenant l'excuse dont nous venons de parler, et reçut bientôt à cette dernière la réponse suivante. « Je suis vivement contrarié en pensant que je ne pourrai vous voir ici cet après-midi, mais encore plus affligé de la cause qui vous retient. Ayez bien soin de vous. Envoyez chercher le meilleur médecin et j'espère qu'il n'y aura pas de danger. J'ai été toute la matinée et je suis encore en ce moment si tourmenté d'une foule d'importuns que j'ai à peine un moment pour vous écrire. Adieu. P.S. Je tâcherai d'être libre pour passer chez vous ce soir à 9 heures. Arrangez-vous pour être seul. » M. Jones reçut alors une visite de Mrs. Mella, qui, après un préambule assez cérémonieux, lui parla en ces termes. « Je suis très fâché, monsieur, de venir chez vous pour un motif semblable à celui qui m'y amène. Mais vous considérez, j'espère, les conséquences fâcheuses qui s'ensuivraient nécessairement pour la réputation de mes pauvres filles si l'on venait une fois à parler de ma maison comme d'une maison malfamée. J'espère donc que vous ne m'accuserez pas d'impertinence si je vous prie de ne plus désormais recevoir de dames chez vous aussi tard dans la nuit. 2 heures du matin étaient sonnées avant que l'une d'elles fût sortie. Je vous assure, madame, dit Jones, que la dame qui était ici hier soir et qui est demeurée la dernière, car l'autre n'a fait que m'apporter une lettre, est une dame de très grande qualité et ma proche parente. « Je ne sais quelle est sa qualité, répondit Mrs. Mella, mais je doute qu'une femme vertueuse, à moins que ce ne soit en effet une très proche parente, vienne rendre visite à un jeune homme à 10 heures du soir et demeure seule avec lui dans sa chambre pendant 4 heures consécutives. D'ailleurs, monsieur, la conduite de ses porteurs fait assez voir qui elle est, car ils n'ont fait que plaisanter toute la soirée dans le vestibule, et ils ont demandé à M. Partridge, en présence de ma servante qui les a entendus, si madame avait le projet de passer toute la nuit avec son maître. Ils ont dit encore beaucoup d'autres sottises qui ne sont pas de nature à pouvoir être répétées. J'ai réellement le plus grand respect pour votre personne, monsieur Jones. Je dis plus, je vous ai les plus grandes obligations de la générosité que vous avez exercée envers mon cousin. Je ne sais même que depuis peu combien vous avez été bon pour lui. J'étais loin d'imaginer dans quelle affreuse carrière la misère avait entraîné le pauvre homme. Quand vous m'avez donné 10 guinées pour lui, j'étais loin de penser que vous les aviez données à un voleur de grand chemin. Ô ciel ! Combien vous avez montré de bonté en cette occasion ! Et avec quelle humanité vous avez sauvé toute cette famille ! Je vois que le caractère sous lequel M. Allworthy vous a peint à moi est parfaitement vrai. Et quand je ne vous aurai aucune obligation, celles que je lui ai sont d'une telle nature qu'à cause de lui, j'aurai pour vous tous les égards possibles. Croyez-moi, cher monsieur Jones, quand il ne serait pas question de mes filles et de ma propre réputation, je serais fâché, pour l'amour de vous, qu'un aussi aimable jeune homme fréquentât des femmes de cette espèce. Mais si vous êtes résolu à continuer d'en recevoir, je dois vous prier de prendre un autre logement, car je n'aime pas que de pareilles scènes se passent chez moi, surtout à cause de mes filles, qui, le ciel le sait, n'ont guère que leur réputation qui puisse les faire rechercher. Jones avait tressailli et changé de couleur au nom de M. Allworthy. « En vérité, Mrs. Miller, répondit-il avec un peu de chaleur, ce que vous venez de me dire n'est point du tout obligeant. Je ne causerai jamais aucun scandale dans votre maison, mais je veux avoir la liberté de recevoir dans ma chambre la compagnie qui me convient. Et si cela peut vous faire le moindre tort, je chercherai un autre logement aussitôt qu'il me sera possible. Je suis fâché, monsieur, dit-elle, que nous nous séparions ainsi, mais il le faut. Et je suis convaincu que monsieur Allworthy lui-même ne remettrait pas les pieds dans ma maison s'il avait le moindre soupçon qu'elle pût être suspecte. Fort bien, madame, dit Jones. J'espère, monsieur, ajouta-t-elle, que vous n'êtes pas fâché contre moi, car pour le monde entier, je ne voudrais pas offenser une personne de la famille de M. Allworthy. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à cause de tout cela. Je suis fâché d'avoir troublé votre repos, madame, dit Jones. mais je vous prie de me faire monter Partridge sur le champ. » Elle le promit, et après une révérence très profonde, elle se retira. Aussitôt que Partridge arriva, Jones l'accabla des reproches les plus violents. « Combien de fois encore, lui dit-il, aurais-je à souffrir de vos sottises, ou plutôt de la mienne, puisque j'ai celle de vous garder. Votre langue a-t-elle résolu ma perte ?»«
Qu'ai-je donc fait, monsieur ?» répondit Partridge, épouvanté.
« Qui vous a autorisé à raconter l'histoire du vol, et à révéler que l'homme que vous avez vu ici était celui... »«
Moi, monsieur ?» s'écria Partridge.
« N'allez pas ajouter un mensonge à votre faute en me la niant. »«
Si j'en ai dit un mot, » répondit Partridge, « je vous proteste que je n'y voyais pas de mal, car je n'aurais pas ouvert la bouche, si ce n'avait été en présence de ses amis et de ses parents, qui, je l'imaginais du moins, n'en auraient rien dit à personne. »
« Mais j'ai, lui dit Jones, un reproche bien plus grave que celui-ci à vous faire. Comment avez-vous osé, après toutes les défenses que je vous avais faites, de prononcer le nom de M. Allworthy dans cette maison ?»
Partridge nia à plusieurs reprises, et avec serment, qu'il l'eût jamais prononcé.
« Comment, dit Jones, Mrs. Miller serait-elle instruite autrement de la liaison qui existe entre lui et moi ?» C'est tout à l'heure seulement qu'elle vient de me dire que les égards qu'elle avait pour moi étaient principalement fondés sur le respect qu'elle avait pour lui.
« Oh, ciel, monsieur !» s'écria Partridge. « Je vous prie seulement de m'écouter, et sûrement il n'y a jamais rien eu de plus malheureux. Veuillez m'écouter, et vous avouerez vous-même combien votre accusation est injuste. Quand Mrs. Honora est descendue hier soir, elle m'a rencontré dans le vestibule au bas de l'escalier. Il m'a demandé quand mon maître avait reçu des nouvelles de M. Allworthy. Et sûrement Mrs. Miller a tout entendu, et aussitôt que Mme Honora a été dehors, elle m'a appelé dans le parloir. « Monsieur Partridge, m'a-t-elle dit, quel est ce M. Allworthy dont parlait cette femme qui vient de sortir ? Est-ce le grand M. Allworthy de Somersetshire ?»«
Sur ma parole, madame, lui répondis-je, je n'en sais rien. »«
Sûrement, me dit-elle. » « Votre maître, n'est-ce pas ce M. Jones, dont j'ai entendu parler à M. Allworthy ?»«
Sur ma parole, madame, lui répondis-je, je n'en sais rien. »
Alors, se tournant du côté de sa fille Nancy, « Il est aussi sûr, dit-elle, que deux et deux font quatre, que c'est le même jeune homme. Il ressemble exactement à la description que ce seigneur m'en a faite. Le ciel sait qui le lui a dit, mais que je sois le plus insigne maraud qui ait jamais marché sur deux pieds, si jamais cela est sorti de ma bouche. Je vous promets, monsieur, que je sais garder un secret quand on me l'ordonne. Au contraire, monsieur, je suis si loin de lui avoir dit quelque chose de M. Allworthy que je lui ai dit absolument le contraire. Car, quoique je n'ai pas contredit sur le champ ce qu'elle m'en disait, cependant, comme les secondes pensées sont, dit-on, les meilleures, quand je me suis mis à considérer que quelqu'un pouvait l'avoir instruite, « Il faut que je mette fin à toute cette histoire, me suis-je dit à moi-même. » Et en conséquence, peu de temps après, je suis rentré dans le parloir, et je lui ai dit, sur ma parole, lui dis-je, « Qui que ce soit qui vous a pu dire que ce gentilhomme était M. Jones, c'est-à-dire, lui dis-je, que ce M. Jones-ci était ce M. Jones-là, vous a dit un exécrable mensonge. Et je vous prie, lui dis-je, de ne jamais parler d'une chose pareille. » car mon maître croirait qu'il faut que ce soit moi qui vous l'ai dite, et je défie qui que ce soit dans la maison de dire jamais que j'en ai dit un mot. Certainement, monsieur, c'est une chose surprenante, et depuis j'ai souvent pensé à part moi, sans deviner comment elle avait pu parvenir à le savoir. À moins que ce ne soit par une vieille femme que j'ai vue l'autre jour demandant l'aumône à la porte, qui ressemblait parfaitement à celle que nous avons vue dans le Warwickshire, et qui nous a tant porté malheur. Sûrement, il n'est jamais bon de passer à côté d'une vieille femme sans lui donner quelque chose, surtout si elle vous regarde, car tout le monde ensemble ne me persuaderait jamais qu'elle n'ait un grand pouvoir de faire du mal. Et sûrement, je ne reverrai plus jamais une vieille femme sans penser en moi-même « Infandum regina iubes renovare dolorem »« Reine, vous m'ordonnez de renouveler une grande douleur. » La simplicité de Partridge fit rire Jones, et mit fin à sa colère, qui, à la vérité, durait ordinairement fort peu. Au lieu de faire des commentaires sur son plaidoyer, il lui dit qu'il avait l'intention de quitter sur le champ son logement
et lui ordonna de sortir pour tâcher de lui en trouver un autre.